Bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour de nous avoir permis de présenter Thomas Sanier et moi cet essai de faisabilité du partenariat d'un patient au cours de l'éducation thérapeutique en hémophilie. Ce travail a pu être fait à partir de trois facteurs essentiels. D'une part, le développement de l'éducation thérapeutique du patient. D'autre part, l'action de l'association des hémophiles. Puis, le travail qui a été fait par la Haute Autorité de Santé en 2007. Si on prend l'éducation du patient, on en a déjà parlé ce matin, c'est de faire acquérir à des patients atteints de maladies chroniques des compétences d'auto-soin, d'adaptation de leur mode de vie, de comportement. Et l'objectif étant de leur permettre d'arriver à être partenaire de soins. Le deuxième facteur, c'est l'Association française des hémophiles, qui est une association de malades. L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique qui est grave, qui est douloureuse, c'est une maladie rare, et qui nécessite un traitement qui est absolument essentiel tout au long de la vie et pour tous les patients. Et l'association est impliquée depuis des années dans l'autotraitement et avec une collaboration avec les soignants des centres de traitement de l'hémophilie. Le troisième facteur, c'est en 2007 l'apparition de ce fameux guide méthodologique qui, en particulier, propose la participation du patient au sein de séances collectives d'éducation thérapeutique en complémentarité de l'association. Et ces trois facteurs ont permis à l'association de mettre en place ce projet de patient partenaire de l'éducation avec un groupe de travail qui a été mis en place fin 2007. C'est l'association qui a écrit ce projet et les participants du groupe de travail étaient d'une part l'AFH, représentée ici par Thomas Sanier, l'AFH étant à la fois promoteur et acteur. Il y avait dans ce groupe de travail des hémophiles ou des parents d'hémophiles, des soignants qui ont été recrutés en fonction de leur expérience en hémophilie et en éducation thérapeutique et qui étaient validés par le centre de référence maladies rares en hémophilie et maladies hémorragiques constitutionnelles. Donc dans ce groupe, il y avait 4 médecins, 2 infirmières et un kiné. Et enfin, le laboratoire de pédagogie de la santé avait détaché 2 personnes qui ont été les animateurs précieux de ce travail tout au long de son déroulement. La méthodologie utilisée a été celle du consensus formalisé qui avait comme objectif d'obtenir un consensus au sein d'un groupe de professionnels et de rédiger des recommandations sur un sujet donné qui était là, donc cette participation du patient hémophile. Le travail a duré 9 mois. Pendant 3 mois, il y a eu une préparation, une recherche des participants. Puis, de janvier à juin 2008, on a eu 4 séminaires qui ont duré un jour et demi pour les 3 premiers, un jour pour le 4e. Et on va aborder chacun de ces séminaires avant que je passe la parole à Thomas. Au cours du premier séminaire, il a fallu essayer de créer l'identité du groupe qui était quand même un petit peu disparate et qui ne se connaissait pas bien. Fixer et valider les règles de fonctionnement, déterminer les attentes des participants, puis on a abordé le concept de patient qui d'abord s'est appelé tuteur avant de s'appeler patient ressource, avec des réflexions communes autour de ce concept, des débats souvent très animés, d'abord avec un intervenant extérieur, puis entre nous. Et puis on a essayé d'identifier les pratiques éducatives qui pouvaient permettre aux patients d'intervenir dans le champ de l'hémophilie. Et on a essayé de se mettre d'accord sur une terminologie de patient. Au cours du deuxième séminaire, le thème central était le patient ressource, quelles sont ses compétences, quelles peuvent être ses complémentarités avec le patient. Donc là aussi, ça a été très studieux et très animé. Au cours du troisième séminaire, c'était le partenariat soignant-soigné qui a été surtout travaillé, avec la classification des compétences qui avaient été définies au cours du deuxième séminaire en compétences requises au moment du recrutement des patients candidats et en compétences à acquérir pour devenir patient ressource. Il y a eu des réflexions et pour nous aider à avancer dans cette réflexion, il y a eu des auditions. L'audition d'un expert en éducation thérapeutique, en diabétologie, et l'audition d'un patient candidat ressources qui était lui-même hémophile. On a retravaillé les pratiques éducatives dans lesquelles les patients ressources pouvaient participer, et puis on a essayé de définir quels étaient les éléments qui pouvaient faciliter ou au contraire faire obstacle à ce travail. Le quatrième séminaire n'a duré qu'une seule journée, et l'objectif était surtout de travailler le recrutement, les modalités de recrutement et le suivi du patient ressource avant d'aborder quelle serait la synthèse et le devenir de ce groupe de travail. Donc là, je vais laisser Thomas parler des résultats.
Merci à vous, Claude. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas médecin, mais je suis un patient qui s'intéresse aux questions d'éducation thérapeutique. Le deuxième point que je voulais introductif, c'était... sur ce point précis, c'était dire que pour l'Association française des hémophiles, ce travail collaboratif avec les soignants et les médecins était extrêmement important. Nos liens qui ont été très étroits autrefois ont connu une grave crise. Nos liens n'étaient pas si doux. Je veux dire, n'étaient pas si doux qu'aujourd'hui. Et nous nous sommes aujourd'hui très heureux de ce travail en commun. Donc le résultat, ça a été la participation du patient ressource qui est validée par l'ensemble du groupe. Les caractéristiques, l'hémophile patient ressource doit être confronté régulièrement à l'autotraitement. Il doit avoir une connaissance du geste technique et avoir une expérience de ce geste technique. Parallèlement à cela, ça veut dire que sa pathologie nécessite. Le degré de sévérité de sa pathologie nécessite des traitements fréquents. Et pour un parent d'hémophile, il doit avoir au moins 3 ans d'expérience pour l'autotraitement de son enfant. Le patient ressource doit être volontaire, il sera bénévole, donc non rémunéré, et disponible évidemment au moment où les stages d'éducation thérapeutique se mettront en place. Il doit être le partenaire de l'équipe soignante. On y reviendra tout à l'heure sous cette complémentarité. Pour une question d'assurance, il doit être adhérent de l'Association française des hémophiles, avoir un âge minimum de 18 ans, mais sans limite après, et en principe, issu de la même région que de l'équipe soignante, tout simplement pour pouvoir adhérer aux valeurs de l'équipe qui travaille dans une région donnée, sachant qu'il y a un centre de traitement de l'hémophilie dans chaque région en France. Les règles de fonctionnement dans son travail... Le patient ressource est soumis au secret professionnel, comme les médecins. Il doit respecter le contexte de l'intervention de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que son essence même, ce qu'il va apprendre et la manière dont il va travailler, se fait dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Le principe, c'est cela. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Cela suppose une présence régulière dans l'ensemble des stages d'éducation thérapeutique qui peut être mené par les équipes soignantes en région. Ça veut dire qu'il doit accepter une formation initiale. Ça veut dire qu'il doit accepter une supervision régulière dont la variabilité n'est pas encore prévue exactement, mais dans lequel il doit rencontrer d'autres patients ressources et dans lequel ils seront amenés à discuter des difficultés et des aspects positifs de son intervention. Voilà. Et il doit être évidemment présent au débriefing que fera l'équipe du stage d'éducation thérapeutique. Un élément très important, à aucun moment il n'exprimera de jugement. Il doit être dans l'écoute et dans l'empathie. Il ne s'agit pas pour lui, d'ailleurs, comme pour l'équipe soignante, d'ailleurs, d'être dans la désignation, d'en montrer du doigt. Il doit être, et j'y reviendrai tout à l'heure, un passeur. Il n'est pas juridiquement considéré comme la personne de confiance, car on n'a pas souhaité que son intervention puisse aller jusque dans les consultations que font les hémophilologues, les spécialistes de l'hémophilie, on n'a pas souhaité que... Parce que, évidemment, être dans les consultations et être en stage d'éducation thérapeutique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on voulait que la place de chacun, à la fois son rôle soit préservé et que les limites soient posées pour lui aussi pour qu'il puisse être préservé. Et alors là, je vais y revenir tout de suite, c'est ne remet pas en cause la pratique médicale et ne se substitue pas aux soignants. Il ne remet pas en cause la pratique médicale Ça ne veut pas dire qu'il ne la réinterroge pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne la reformule pas. Et en revanche, il n'a pas vocation, évidemment, à établir des prescriptions, etc. Mais on va le voir, il va aider quand même à une meilleure compréhension de la prise en charge. Les recrutements. Deux voies complémentaires pour nous, le centre de traitement de l'hémophilie, CTH, et ou l'Association française des hémophiles. Une étape préalable, une lettre de motivation, suivie d'un entretien avec les soignants du centre de traitement de l'hémophilie et un membre du comité régional de l'Association française des hémophiles. Il s'agit véritablement de faire en sorte que ce partenariat naisse au cœur de la relation entre le comité, l'Association française des hémophiles régionale et le centre de traitement de l'hémophilie. Il a un rôle important, car il a vocation à intervenir au cours des stages d'éducation thérapeutique. Et son intervention se déroule pendant plusieurs étapes, car même si notre travail n'a pas consisté à retravailler les stages d'éducation thérapeutique eux-mêmes, nous avons quand même prédéterminé, à partir des expériences qui ont eu lieu, et que nous connaissons, des stages d'éducation thérapeutique qui ont lieu dans le monde de l'hémophilie, nous avons repéré les moments où il était intéressant qu'il intervienne. Nous avons déterminé son intervention lors de l'atelier médical, au moment même, j'allais dire, où les bases de l'hémophilie sont données par les professionnels de santé, par le médecin. Là, dans un travail de reformulation, d'interrogation, de détection dans la salle, de moments de détresse, au moment où les patients commencent à tout simplement à regarder en l'air, ou etc., qui peuvent détecter, qui peuvent montrer que là, le discours n'est pas très bien passé, ou que le vocabulaire, tout simplement, n'est pas adéquat. Et le patient ressource aura la possibilité et sera formé pour cela, pour détecter ces moments où, voilà, le discours échappe. Essayer de rétablir à chaque fois le lien. Dans l'atelier infirmier, tout simplement parce que il peut servir de cobaye, ou au contraire, par un jeu ludique, permettre que l'infirmière devienne cobaye du geste thérapeutique lui-même, du geste technique. L'atelier kinésithérapie, de la même façon, là aussi, il peut intervenir pour montrer à la fois les difficultés que représente une kinésithérapie qui doit être menée dans le cadre de l'hémophilie extrêmement régulièrement, car à défaut, on sait que les arthropathies prennent des proportions qui peuvent être véritablement importantes, et la kinésithérapie est un des axes centrales de l'éducation thérapeutique. Et puis, au sein des groupes de parole, c'est le moment où les soignants et les médecins et les soignants ne sont pas là, mais il est assisté, il travaille en binôme avec un psychologue, une assistante sociale, où là, en dehors de ce monde soignant, de ces professionnels de santé, des choses peuvent être dites qui ne sont pas dites dans le cadre des ateliers infirmiers médicaux, kinésithérapeutes, et que le patient ressource peut faire remonter. Je reparlais tout à l'heure de passeurs. Et puis, il sera présent évidemment aux réunions de synthèse pour voir quel est le véritablement, pour faire peut-être un bilan de l'ensemble des actions de l'ensemble des paroles qui ont été données, et pouvoir transmettre là aussi également son vécu, exprimer peut-être, faire le lien avec les propres vies des patients. Car ce qui est fort, je crois, dans la présence du patient ressource, c'est que pour les patients qui sont là, qui reçoivent cet enseignement, mais qui en même temps font partager leur expérience aux soignants et aux médecins, c'est qu'il y a le vécu des patients est valorisé. Et le patient lui-même peut dire qu'au fond, c'est difficile. Que ne pas réussir à suivre les soins très régulièrement, ça peut être dit. Et ça peut être interrogé, et on peut trouver des moyens pour y remédier. Voilà. Ou pas pendant un moment. Mais au moins, c'est dit. Et l'équipe soignante peut-être peut se rendre compte de difficultés qui naissent et qui nécessitent une adaptation de la prise en charge. Et puis, là aussi, quelque chose d'assez innovant, il intervient dans les programmes d'éducation thérapeutique à partir de... Le programme d'éducation est initié par l'équipe soignante, mais il est transmis aux patients ressources qui donnent une critique avant même qu'il soit transmis à l'ensemble des patients. Alors, des compétences réparties en compétences requises et à acquérir, car il y a ce qu'on a estimé, ce qui était important pour que les patients ressources connaissent, mais aussi ce qu'ils acquièrent. Alors, je vais simplement focaliser sur l'aspect animation et médiation, mais évidemment, on pourra y revenir sur les autres aspects. Mais ce point-là me semble très important et montre bien la complémentarité que l'Association française des hémophiles et ce groupe qui s'est constitué a voulu mettre en place. Le patient ressource doit être capable d'empathie, d'écoute. Ça veut dire qu'il donne, en termes de compétences à acquérir, ça veut dire qu'il doit donner confiance et aider les pairs afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs difficultés. Il favorise la compréhension du discours des soignants. Ça veut dire qu'il l'interroge. Ça veut dire qu'il permet aussi, à chaque fois qu'un médecin dit un mot un peu compliqué que lui utilise tous les jours, il arrête. Ou simplement, il repose la question. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Faisant ainsi le rôle un petit peu de naïf. Et permettant ainsi aux soignants d'être plus aisés dans la réexplication. N'étant ainsi pas pris en faute, d'une certaine manière. Il reformule le discours des pairs, tout simplement pour être bien sûr que la question est bien comprise par tout le monde et s'inscrit aussi pour un discours qui soit compréhensible quel que soit l'âge du public. Et il peut évidemment s'exprimer facilement en public, ce qui ne veut pas dire qu'il soit un orateur né, mais qu'il peut s'exprimer en public. Il favorise effectivement un climat d'accueil et de confiance. Ça, c'est l'aspect légitimité, effectivement, du patient vers des patients qui suivent ces stages d'éducation thérapeutique. Le vécu du patient ressource et trouve pleinement sa légitimité. Il est capable évidemment d'animer un groupe de patients en binôme. Il reçoit la formation pour ça, c'est le groupe de parole. Et il facilite la parole et l'écoute dans les relations triangulaires. C'est la reformulation dont je parlais tout à l'heure. Alors évidemment, il y a des éléments facilitateurs et obstacles. Tout d'abord, c'est l'élément facilitateur, vous l'avez bien compris, c'est la motivation de l'Association française des hémophiles. Ça, nous sommes extrêmement volontaires, et notre volonté est même, je dirais, absolue, mais je pense que la communauté l'a bien senti. C'est cette adéquation entre besoins des patients et équipe soignante. Il y a le rôle reconnu du patient ressource dans d'autres pathologies. Comme on a pu vous le dire, on a fait aussi appel à des associations qui ont eu de leur propre expérience. Je pense à AIDE et je pense à l'association de la maladie de Crohn. La volonté aussi des centres de traitement de l'hémophilie d'harmoniser les pratiques en éducation thérapeutique. De toute façon, c'est même une obligation à partir des centres de référence de maladies rares. Ils doivent s'occuper de ce sujet. Et l'obstacle, évidemment, l'hémophilie, heureusement, n'est qu'une maladie rare, mais c'est une maladie rare. Et donc, du coup, il peut y avoir un manque de candidats, mais nous en avons déjà 5. Il y a une méconnaissance des pratiques d'éducation thérapeutique dans certains centres de traitement d'hémophilie, ou des manques, et ou des manques de moyens. Il y a un refus éventuel de la participation du patient ressource dans les stages d'éducation thérapeutique, mais ça serait presque un obstacle rédhibitoire. A priori, tous les volontaires pour ce type d'expérience de patient ressource veulent s'intégrer au stage d'éducation thérapeutique. Le financement public, a priori, et puis possibilité évidemment de financement privé, mais je vais pouvoir répondre à cette question. Dispositif de formation initiale et continue, c'est là où le travail se met en place, en groupe, pour le patient ressource, au plan national, dans les locaux de l'IFH, c'est là que les patients ressources seront formés. On a prévu plusieurs sessions, effectuées par des soignants, par l'Association française des hémophilies ou un prestataire extérieur, avec un contenu du programme soignant, c'est sur la maladie, le traitement, les complications, l'urgence. Mais là aussi, il peut y avoir des partenariats. Le contenu du programme de l'AFH, fonctionnement de l'association, illustration du vécu de la maladie. Là aussi, il peut y avoir des partenariats, évidemment, avec les soignants. Et puis, le contenu des programmes soignants et AFH, c'est l'institution, l'utilisation des ressources, l'autotraitement, l'activité physique. Et puis, un contenu de programme à direction des prestataires extérieurs, c'est le développement personnel. Il reste encore à écrire des supports de formation qui sont à écrire, et l'idée c'est de former tous les 2 ans, compte tenu de la pathologie du nombre de patients, tous les 2 ans, 2 à 3 ans, des patients ressources. Conclusion, participation du patient ressource, oui, dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui est acceptée par le groupe. Personne hémophile, confrontée régulièrement à l'autotraitement, cooptée sur la base du volontariat selon des prédispositions et des compétences. Il appartient en principe à la même région que le CTH. Il se distingue de ses pairs puisqu'il reçoit une formation spécifique. Il assure un rôle de facilitateur d'écoute, de parole, de soutien. Il contribue à l'amélioration des programmes d'éducation. Ça, c'est notre pari commun à tous. Il favorise la compréhension du discours des soignants et il s'appuie sur son vécu ou sur un vécu partagé avec d'autres patients pour traduire son expérience de la maladie du traitement. Et puis, Il devrait faciliter aussi l'acquisition des compétences d'auto-soin, d'adaptation et de vigilance. C'est exactement ça pour lequel il est présent. C'est, au bout du compte, améliorer, changer les comportements des patients. On le sait très bien que pour des adolescents, pour des patients qui ont des comorbidités, VIH, VHC, et pour des adultes, la prise en charge, le suivi est extrêmement compliqué. Or, il est d'une absolue nécessité, alors que les protocoles de soins sont connus, alors qu'on sait soigner aujourd'hui les patients hémophiles, qu'il n'y ait plus d'arthroplastie, c'est notre constat et notre volonté de mettre fin à ce qui nous apparaît à tous comme un immense gâchis. Et le patient en ressources, il favoriserait l'élaboration d'une réelle alliance thérapeutique entre soignants, patients et leurs familles. Voilà, donc il reste encore du travail à faire, il y a des phases pilotes qui se lancent, et puis il y a un projet ultérieur de formation des patients en ressources qui vont se mettre sur 2009 et qui seront qui se lancent, on pourra parler des suites après. Un immense remerciement à l'ensemble des participants, et avec Claude, on voudrait remercier particulièrement deux personnes qui nous ont accompagnés.
Je pense que pour des gens qui pourraient travailler sur ce même type de programme, l'aide du laboratoire de pédagogie avec les deux personnes qui ont été détachées, Lydie Vince et Sophie Essaguer, a été vraiment absolument extraordinaire pour nous. C'était une expérience formidable.